Podcast.com. Essaye ça.
Ce que vous entendez en background, là, c'est la trame sonore de Pokémon Yellow. On s'en va dans le passé avec notre invité de la semaine, c'est Marc-Antoine Desragon. Salut, man!
Salut, ça va?
Ça va super bien. Très content que tu aies pu te joindre à nous, surtout considérant les circonstances que tu m'as parlé tantôt.
Ouais.
C'est quand même des grosses nouvelles. Je te souhaite le mieux à toi et à ta famille.
Merci.
Et d'ailleurs, ici, on a François Lombré avec
nous. Salut les magiciens!
You bet qu'il est là. Hein? Comment ça va, François?
Ça va bien, ça va bien.
Ah ouais, hein?
Mais ça peut changer.
Ça peut changer. Faites attention. Hey, toi, Marc-Antoine, t'es un joueur de Magic.
Mm-hmm.
Développe.
Dans le fond, moi, j'ai commencé à jouer à Return to Ravnica. En fait, je jouais depuis quand j'étais très jeune, mais j'ai recommencé à jouer en fait à cette époque-là.
Toi aussi, t'as eu la deux phases. Hein? C'est pas mal un traditionnel.
C'est ça. Ouais,
ça.
Ouais.
Fait que t'as commencé quand pour la première fois?
Ouais. La première fois, j'étais assez jeune. Là. Dans le fond, ça devait être dans le temps d'Ice Age.
Ok.
Fait que ouais, c'est ça.
Ah, yes, c'est, hein? Ouais. C'est vraiment une grosse série Ice Age.
Ouais, mais il y avait beaucoup de personnes qui ont commencé là.
Ouais, ouais.
Après ça, j'ai arrêté pendant un bout, puis je m'étais mis dans le Hearthstone plus quand ça avait sorti.
Ah ouais,
parce que ouais, ben, j'avais commencé avec le Magic Online, mais des fois c'est un peu dispendieux avec Magic Online, puis l'accessibilité est pas là. Fait que là, je m'étais mis plus sur Hearthstone, puis je faisais de la compétition avec l'université, là, avec le TESPA Challenge qui appelle.
Okay.
Les compétitions entre les universités de Hearthstone. Fait que je représentais l'université de Sherbrooke à l'époque.
Wow, quand même.
Ouais.
Ok, puis, fait que toi, t'as comme tout le temps été compétitif dans
ouais,
ce jeu.
Toujours assez compétitif.
Ta, ta première batch, Ice Age, c'est quoi tu devais pas être vieux.
Non, Ice Age, en quelle année? Moi, on parle de.
95,
ben c'est ça. Moi, Ice Age, ok, j'ai commencé à jouer avec ce premier jeu-là. Mais ça a été ma première série que j'ai vue, mais moi j'ai commencé à jouer en 98.
Okay.
Je devais avoir 6 ans à peu près.
C'est plus Chronicles, ça.
Ouais, mais je me souviens, que mon premier booster que j'ai eu c'était Ice Age, mais c'est ça. Là, genre,
Ok, puis t'étais-tu déjà compétitif à 6 ans?
Ah non, absolument pas. Là. Je me souviens qu'à cet âge-là, je jouais avec mon petit frère, puis on parlait pas anglais, fait que on demandait à mon père de nous traduire les cartes, mais il avait aucune idée c'était quoi les règles. Il nous disait mot pour mot c'était quoi les cartes, puis tout on essayait de comprendre c'était quoi les règles. Fait que là, ça faisait un drôle de mix.
Et ton père, as-tu commencé à jouer?
Non, pas du tout. Lui, il était plus dans le poker, là, plus des jeux de cartes.
Ok,
quand même.
Ouais.
Puis ton frère, lui, as-tu continué?
Ouais. On fait des tournois encore ensemble. On va à toutes les Magic Fest là, maintenant. On les fait ensemble. Pendant longtemps, on a habité ensemble, puis on draftait toutes les soirs. Beaucoup d'MTGO, puis de soirées de grinding ensemble.
Ok, fait que je veux dire, t'as comme ton partner pour découvrir
ouais,
le
ouais,
jeu.
Absolument.
Est-ce que t'as comme des affaires que t'es meilleur que lui, ou lui il est meilleur dans d'autres aspects?
Ben, je pense que c'est assez réaliste de dire que je suis meilleur que lui dans à peu près tout. Non, pour de vrai.
T'es le grand frère, toi?
Ouais, c'est ça. Non, mais pour de vrai, il est très bon, mais genre, le passé a prouvé que genre, c'est plus moi qui l'aidais. Là. Anecdote coquette. Pendant longtemps, on allait faire les grands prix, puis on est vraiment plus dans le limited, puis fait que c'est du sealed la première journée, puis vu qu'on était des dragons, on était tout le temps assis un à côté de l'autre. À l'époque, maintenant ça l'a changé là,
parce que c'était hors d'alphabétique.
C'est ça, avant c'était hors d'alphabétique, puis lui ça arrivait tout le temps, c'est le classique, on virait tout le temps des brosses la veille, fait que lui il arrivait tout le temps le matin, puis il se couchait sur la table, puis il disait fais mon deck s'il te plaît, genre ça arrivait tout le temps. Une des premières fois que c'est arrivé là, écoute, on était monté à Las Vegas faire le gros tournoi là de Modern Master 2.
Ah shit, hein? Ouais, ça veut dire que t'es la personne qui est venue à terrain basique qui a fait le plus de tournois à date. C'est
ok,
ça.
Bon.
Incluant le juge, là.
Puis là, c'est ça. Fait que là, et puis c'était le fun parce qu'en même temps, mon père, lui, il a la petite, je vous dis qu'il faisait le poker. Il était allé faire des events de WSOP pendant
fait
ce temps-là.
Une sortie de famille.
C'est ça. Moi, mon frère, mon père, les deux, le vendredi, on arrive à Vegas. Puis on s'éclate la face. On arrive, on sort du casino à 8h le matin. Le tournoi a commencé à 9h. Fait qu'on est débarqué au tournoi. On n'avait pas dormi, encore hangover. Mon frère, il vomissait. Il vomissait pendant que je faisais son deck à la table. Puis là, t'avais tout le monde alentour de nous qui nous regardait. Puis t'avais rien d'autre hier, on était sérieux, tu sais. On s'est couché tôt, on a testé nos, les archetypes, tout ça. On était comme.
Puis avez-vous bien fait ça, tu
Non, pas cette fois-là. Ah non, je pense que c'est l'air climatisé du Nevada qui. Mélangé avec l'air du Nevada qui nous a tués.
Ça vous a eu, ben ça. Ouais. Mais là, je pense que c'est en train de passer au travail d'une des règles les plus importantes. C'est que ce qui se passe à Vegas reste à Vegas.
Ah ouais, mais là, quand c'est. Pour une convention de Magic, on peut en parler.
On peut en parler, c'est sûr. Fait que là, toi et ton frère, vous jouez ensemble depuis un bon bout de temps. Lui ouais. aussi, il y a eu cette passe-là de comme arrêter après.
Ouais,
après
ouais vraiment. Lui aussi, il était rendu dans l'Hearthstone. Puis, mais là, après ça, parce que pendant un bout, on habitait ensemble. Puis là, on peut drafter dans le temps de Terrace, en fait.
Okay.
Pendant le temps de Terrace, on draftait comme à tous les jours. On s'était une maison à Sherbrooke. Puis on était quatre colocs. Puis on draftait littéralement tous les soirs. On passait deux boîtes par semaine.
Oh boy!
Pendant un bout, hein.
Hey, c'est cool, ça!
Ah ouais, notre salon, on n'était que ramassé de boosters et de communes.
Puis là, mettons, là, t'as reparti la patente, mais ouais. Est-ce que t'as comme des cartes préférées de l'époque du début, là, de Ice Age?
Non,
t'as-tu
pas.
T'as-tu un archétype que t'aimes plus de deck?
J'ai toujours vraiment aimé jouer Control.
OK.
Fait que c'est sûr que ça a toujours été dans ces veines-là. Mais j'ai pas tant de nostalgie par rapport aux premières années parce que genre je m'en souviens pas assez.
Quel okay. type de contrôle? Parce qu'il y a quand même tu peux jouer bleu, tu ouais, peux y a, bleu, blanc, non, bleu, très, blanc, noir.
C'est très
Il y a une phase de counter
spell. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement.
Ouais. Je comprends.
C'est du moi j'ai bleu blanc, le Wrath of God counter spell.
Ouais, ouais.
Alors, comme dans le temps.
C'est ouais, ça. C'est ça.
Je me rappelle, ça a été les premiers decks qui gagnaient beaucoup de tournois, là, ouais. les decks de Millstone avec des Swords to Plowshare, puis des Wrath of God, puis des Counter Spell all the way. Sinon, ben, de nos jours, tu t'as recommencé Magic.
Ouais.
C'est quoi la grosse différence entre Hearthstone puis Magic?
C'est l'interaction en instant là, qui change tout. Là.
OK.
Tu sais, Hearthstone, c'est juste pendant t'as juste ton tour, puis l'autre, t'as le tour de l'autre. Il n'y a pas d'instant. Ce qui a fait que, tu sais, veux pas, on l'a vu que Blizzard l'avait développé pour être comme jouable sur une plateforme. Là. C'est ça qui a été le gros problème de Magic Online pendant longtemps.
Ouais.
Mais c'est ça qui fait la richesse de Magic, l'instant speed.
Ouais. Ouais.
C'est ça qui fait que c'est le meilleur jeu de cartes.
Je suis d'accord.
De toutes les TCG.
Ah oh, ouais, je suis d'accord. C'est
ben, j'avais peut-être un argument pour Hearthstone, peut-être, c'est par rapport au mana base. Là. Je sais qu'à Hearthstone, à tous les tours, t'as comme un mana assuré. Puis à Magic, t'es pas sûr d'avoir ton lead tout le temps.
Ce qui arrive, par exemple, avec ça, c'est que moi, je trouve ça double tranchant. C'est que, oui, ça fait que les games, t'es toujours sûr d'avoir une game, disons.
Ouais.
Mais ça fait qu'à Hearthstone, toutes les games se ressemblent beaucoup plus.
Ouais.
Parce que tu peux vraiment plus comme anticiper la curve que tu vas avoir. Puis t'as pas besoin de la variable, genre mana, tu l'as pas. Comparativement à Magic.
Ouais.
Fait que, tu sais, les games se ressemblent beaucoup parce que tu sais qu'à tous les tours 1, tout le monde va avoir un mana, tous les tours 2, tout le monde va avoir deux mana, tous les tours 3.
Ben, c'est comme, dans le fond, à Hearthstone, tu vas avoir. C'est sûr que tu vas avoir des spells à gros coups, dans le fond.
Ouais. Aussi.
Tandis qu'à Magic, il y a plein de decks, c'est tout du 1, 2, 3.
Ouais, la majorité, dans le fond.
Ouais, en duel.
Ouais.
Fait que c'est ça.
Oh là 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 là. Je suis en train de regarder un volume là-dessus, c'est inimportant. Fait que sinon. Je veux dire, qu'est-ce qui t'a ramené dans Magic? C'est le Instant Speed?
Ce qui m'a ramené, c'est le. Dans le fond, c'est quand je suis arrivé à. En fait, quand il y a eu Return to Ravnica et Terrace, à l'époque, c'est drôle à dire, mais j'avais mon beau-père à l'époque qui m'a réintroduit à.
Colin, hein? Fait que Magic. T'as toute la famille embarque là-dedans.
C'est ça,
là, va falloir que Gabriel se résigne à un moment donné.
Fait que c'est ça, c'est maintenant un de mes amis qui s'appelle François Charneux.
OK.
Que c'est lui qui m'a réintroduit à Magic puis qui m'a réappris le. C'est lui qui m'a appris la base des stratégies de draft.
OK.
Puis là, à l'époque, on draftait vraiment beaucoup. Là.
Fait que c'est le draft, dans le fond, qui t'a comme ramené à Magic.
Ah, absolument.
OK. Puis là, tu faisais des compétitions de, je veux dire, sealed, c'est quand même assez compliqué, faire des decks de ça. Là. T'es-tu du genre à aller faire des recherches avant ou...
Oh, oui, j'écoute beaucoup de podcasts, beaucoup de je lis tous les articles des pros. Pis,
OK. Fait que toi, tu vis Magic, genre.
J'en fais beaucoup, là. Disons, okay. C'est le, je pense pas que j'en fais le plus.
Tu draftes un peu moins ces temps-ci, sûrement.
Non, je drafte beaucoup ces temps-ci parce que je me qualifie pour les mythiques. À toutes les saisons, je me qualifie pour mythique sur Magic Arena.
OK!
Ouais. Puis ça fait que genre, je t'invite à aller au tournoi pour les MCQ, là, pour les Mythic Championship Qualifier.
OK, tu refais encore des tournois ces temps-ci.
Ça, c'est. Ouais. Faut que tu atteignes platine, genre?
Non, c'est dans le fond, après platine, t'as diamond, puis après ça, t'as mythique.
OK.
Puis si tu fais. Après ça, si t'es top 1000 sur Magic Arena, t'as ça des invites.
Ah ouais.
Ouais, wow, ouais. T'as top 1000, c'est quand même. Pas mal bon, ça.
La dernière saison, j'étais dans le top 10. J'ai été pendant. Mais là, c'est sûr qu'à un moment donné, t'arrêtes de jouer, fait que là, on te redépasse. Là.
Ouais.
Mais je peux dire qu'il y a eu une fenêtre de deux jours où est-ce que genre, j'étais 9e sur la méta de Magic Arena.
Shit! C'est quoi ton tag dans Magic Arena?
Moi, c'est mon tag de gamer que je traîne depuis toujours, c'est Taco Marco.
Taco Marco.
La joke, c'est que mon frère, là, pendant longtemps, son nom c'était Burrito.
Okay.
Fait que là, moi, je me suis dit, bon, ben, Taco Marco. Fait que là, c'est parce qu'on jouait à Overwatch ensemble. Fait que là, toutes les fois qu'on embarquait sur un ladder, là, le monde disait, oh, vous nous donnez faim, les gars. Puis, fait que c'est pour ça que c'était ça la joke.
Le taco et le bourré.
Mais toi, c'était-tu une technique particulière quand tu te pars un deck en draft, là? Je sais pas, c'est quoi ta stratégie?
Moi, je suis la stratégie qui est le. Je sais pas si vous êtes familier avec Ben Stark.
Non.
Ben Stark, c'est comme un des plus grands joueurs de Limited, genre de Magic. Il est avec Channel Fireball.
C'est quoi Limited?
Limited, c'est Sealed puis Draft.
OK.
C'est
okay.
tout ce qui implique
Limited ouvrir... dans le sens que t'arrives, t'as pas besoin d'amener de cartes. Okay.
Tout ce qui implique ouvrir des boosters.
OK.
Puis, dans le fond, lui, j'ai toujours drafté comme il dit, le drafting the hard way, qu'il dit. Là. C'est-à-dire, pas rester fixé avec ton. Pas rester fixé avec ton premier. Avec tes antécédents. Là. Genre, mettons, t'ouvres des bombes, mais si cette couleur-là est pas ouverte, garde-la pas. Pendant les premiers picks, restez ouvert. Toujours à essayer d'aller lire la table. Fait que toujours aller. Tu regardes à ta gauche, tu regardes ce qui se passe de la droite, tu regardes ce qui est. Si telle carte, t'es capable de dire que si au cinquième pick, admettons, elle est là, probablement que ces couleurs-là sont ouvertes. Identifier ces schémas-là. Puis en même temps aussi.
Quand tu dis ouvert, ça veut dire que dans le sens qu'il n'y a aucun des joueurs autour de la table qui a décidé de se.
C'est ça, exact. Idéalement, tu vises, admettons, sur une table à 8, tu vises que les 2-3 personnes à ta droite, c'est eux les plus importantes parce qu'eux, tu vas avoir 2 boosters sur 3 qui vont être avec toi. Fait que si eux, tu es capable d'aller lire les couleurs qui sont pas, puis que toi, tu es allé le prendre, puis rentrer dans ces couleurs-là, mais là, nécessairement, tu vas te faire passer des cartes, surtout que tu vas recevoir des gros payoffs sur le troisième booster.
Ouais.
Il y a deux façons de le faire. Tu vas recevoir des gros payoffs sur le troisième booster parce que eux, ils ne voudront pas ces couleurs-là. Puis l'autre affaire à faire aussi, c'est que quand tu es décidé sur une des couleurs dans le premier booster, tu essaies d'aller couper la couleur quand tu passes à ta gauche.
Comme ça,
là, tu reçois du payoff sur le deuxième booster.
OK. Puis c'est-tu une bonne idée, des fois, de prendre une carte pour que l'autre l'aille pas?
Ça dépend comment tu le joues. Là. À 8, oui.
OK.
À 8, oui. Souvent, ce qui arrive maintenant, c'est que le monde qui joue sur MTGO, sur Magic Arena, tu fais du league. Là. Fait que tu joues pas contre les personnes contre qui t'as drafté.
Non. Mm-hmm.
Fait que là, c'est ça. Tu t'en fous, là.
Ouais.
Vas-y pour le sideboard.
Ouais, on en a parlé la semaine passée c'est avec ça. Emmanuel. Il m'a appris que, dans le fond, c'était un robot contre qui tu draftais.
Ben oui, c'est ça.
Je savais pas.
Ouais.
Je joue pas beaucoup Magic Arena parce que moi, j'aime beaucoup être autour de la table.
Ouais.
Ça, le fait que c'est un jeu de cartes, de pouvoir insulter la mère de l'autre,
ben oui.
Je trouve que c'est important, là, le méta et tout. Là. Sinon, ben, merci beaucoup d'être avec nous, Marc-Antoine. J'espère qu'on va te revoir dans le futur. René, on va jaser avec toi encore de la carte de la semaine parce que ça a été ton choix. Et en revenant de cette petite pause carte de la semaine. Donc, pour l'instant, merci beaucoup à l'Abyss 7355 Saint-Michel, le métro Saint-Michel. C'est le magasin affilié à notre belle aventure de terrain basique. Un endroit très sympathique, allez les voir. Sinon, ben, on écoute le beat à bone et on parle de la carte de la semaine avec notre invité, Marc-Antoine Desragon, qui est là avec sa charmante compagne Gabrielle qui fait des sourires là-bas puis qui est juste assez gênée pour pas toucher une mine. Hey, beat à bone!
Donc, la carte de la semaine que j'ai choisie, c'est le Merfolk Secret Keeper avec son aventure, le Venture Deeper. C'est dans le fond, c'est une des cartes qui était les plus déterminantes dans le draft de Throne of Eldraine. Ce que je te trouvais intéressant avec cette carte-là, c'est qu'au début du set, tout le monde pensait qu'il y avait juste le contrôle qui était viable, puis tout le monde jouait ça, puis surtout qu'il y a eu un gros billet qui venait de justement, on vient de parler des bots d'Arena, parce que les bots d'Arena sous-estimaient complètement cette carte-là. Fait que là, tout le monde avait cette carte-là à plusieurs exemplaires, puis pour ceux qui ont déjà drafté des sets où est-ce qu'il y a un peu de milling, c'est souvent pas super bon en draft, sauf si t'en as plusieurs.
Ouais.
c'est tout le temps ça. Là, des cartes de mill, si t'es as toutes, c'est bon, sinon ça vaut rien.
Ouais, ça peut pas être comme une stratégie B. Là,
non, c'est ça.
All-in.
Mais là, ce que je trouve intéressant par ça, c'est que par après, ce qu'elle fait, c'est qu'elle, pourquoi elle est bonne, c'est que vu que c'est une 0-4, elle permettait de bloquer l'aggro. Ce qui a fait en sorte que le monde a commencé à jouer plus de combat tricks pour justement combattre ça. Parce que si ta stratégie.
Combat tricks.
Ouais, mettons des +2/+2 ou des.
Ok, des petits instants pour gonfler ton monstre qui attaque.
Exact, c'est ça. Fait que là, parce que, tu sais, habituellement en draft, c'est pas l'idéal parce que, tu veux toujours en draft éviter le 2-for-1.
Ouais.
Le removal en réponse au combat tricks.
Ouais.
Ça, c'est ton cauchemar. Mais là, quand t'as le. Fait que souvent, les combat tricks, c'est pas très bon, mais quand l'autre. Son intention, c'est de se tap out pour jouer des cartes pour bloquer avec, mais là, Combat Tricks devient meilleur. Mais là, ce que je trouve super intéressant avec la carte, c'est qu'après ça, ça s'est remodifié, puis on a pu voir la force de à quel point tu n'as pas besoin de win con, de façon de gagner quand tu joues un deck contrôle.
Ouais.
Parce que là, maintenant, l'idéal, moi, ce que je fais souvent, c'est que tu en joues comme un ou deux Secret Keeper comme ça, puis tu joues des Runaway Together. Là,
Tu le remets dans ta main,
tu retournes l'autre.
Ouais.
Puis après ça, tu joues juste ça sur un shield control à l'endroit de ça, avec pas d'autres conditions pour gagner. Puis là, tu vois que t'as juste besoin de miller l'autre de 8, puis au final, t'étires tellement à la game que tu finis par gagner
ça. Ouais. Puis sinon, tu mets un Lucky Clover, fait que d'un coup, pour un bleu, tu mets l'autre de 8.
Si t'es quand même d'avoir la chance de faire ça, c'est vraiment insane.
C'est quand même assez capoté. Je l'aime beaucoup, Lucky Clover, moi, parce que d'habitude, ces cartes-là qui doublent des effets sont soit légendaires, fait que tu peux juste en avoir une dans le jeu, ou sinon, ils coûtent 3, 4, 9, mais là, le Lucky Clover coûte 2. Ça vient quand même assez rapidement, très influencé beaucoup de matchs.
J'ai une histoire avec le Lucky Clover. Là. Quand j'étais au Magic Fest à Montréal, puis que je faisais ma game, j'étais 6-2. Non, j'étais 5-2, parce qu'il fallait être 6-2. J'étais 5-2, puis je jouais contre un gars qui jouait fait que dans le fond, j'étais un win and in. Fait que si je gagnais, j'allais jour 2.
OK.
Puis le gars, il jouait le deck blanc, c'était sealed, puis le gars, il jouait vert et blanc avec Lucky Clover, puis juste des aventures.
OK.
Ouais, ouais, ouais.
Puis moi, je jouais le classique noir-vert food, là.
OK.
Puis, fait que là, ce qui était...
Avec le Oven, là?
Non, j'avais pas l'Oven, mais j'avais deux Back Into a Pie puis deux Fierce Witch Talker.
Ouais, c'est le loup. Toutes les fois qu'il attaque.
C'est le loup, le 4-4 Trample qui met un food.
Qui met un food,
Puis le Removal qui met un food aussi. Fait que le gars, il avait Lucky Clover, puis genre, j'étais en train de gagner, puis il fait le combo, il fait le Fairy Guildmother qui donne +2/+1 flying.
Ok.
Moi, j'avais aucun flying, aucun reach. Fait que là, il met +2/+1 à deux de ses créatures. Après ça, il refait +2/+2 on tap à deux de ses créatures. Il arrive pour me swinguer pour exactement 17. Moi, je sors ma 23e carte du deck que genre, j'avais pas assez de playable. Le Fell of the Peasant, là, le 5 dégâts une créature avec flying. J'avais aucun target dessus parce qu'il n'y avait pas de flying.
Ben,
on a vu qu'il avait boosté et le gars était tellement salé. Je pense que parce que c'était la première game. Fait que là, le gars, il me regarde, tu joues vraiment ça mainboard? J'ai dit, ma 23e carte, man. Puis là, le gars, il était salé. Après la deuxième game, il a jamais été là. Il était bien trop frustré. Puis il est parti, il est retourné chez eux.
Fait que t'as gagné deux fois, c'était
ouais,
fois-là.
C'est ça.
C'est bon. Hey, ben, ça termine la carte de la semaine. On va sûrement reparler de tes exploits au dernier Magic Fest. Là-dessus, on écoute le beat à bone et on revient à Terrain basé. Hey, Marc-Antoine, en fait, on nous a laissé des questions ici pour toi parce que t'es pas mal le joueur qu'on connaît qui court encore les tournois. Je veux dire, nous, on est plus casual, on fait nos affaires sur notre bord. Il y a Jason qui fait quand même beaucoup de compétitions dans beaucoup de magasins. Mais toi, t'es terminé 30e sur 821 au Magic Fest de Montréal. Octobre dernier.
Oui.
Un tournoi sealed de Throne of Eldraine qui a duré 2 jours.
Oui.
Ça ressemble à un marathon, qui dit.
Ah oui, vraiment.
Parle-moi de ça.
En fait, tu commences la première journée, puis tu reçois tes 6 boosters. Faut que tu montes ton deck. Puis ensuite, t'as c'est 7-2. Fait que t'as 9 rounds à faire okay. dans toute la journée.
Minimum.
C'est ça, t'as 7 rounds à faire si tu veux te rendre. Là, faut qu'à la 8e round, tu sois minimum 6-2 pour passer au lendemain.
OK, fait que l'anecdote que tu comptais pendant la carte de la semaine, ça c'est vient ça. De cette fin de semaine.
C'est ça, exact. Okay. Puis après ça, si tu te rends au dimanche, qui est le jour 2, c'est des drafts.
OK.
Puis c'est des competitive drafts, c'est-à-dire que t'as des juges avec toi, puis tout le monde, il y a un juge qui parle au micro, puis là, t'as des timers pour faire tes picks. T'as pas le droit de regarder tes picks entre tes choix.
Oh!
T'as jamais le droit de regarder tes cartes. T'as reçois les cartes, mettons, tu reçois tes cartes, faut que t'es comptes. Là, ça dit, faites un choix. Prenez vos cartes. Là, OK, vous avez 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Là, tu fais une carte. Après ça, tu passes à gauche. Là, ça dit compter le nombre de cartes. Il faut que tu comptes le nombre de cartes que tu passes à gauche. L'autre, il recompte. Puis là, tu fais ça. Puis là, ça part. Mettons ton premier pick, c'est genre 45 secondes. Puis à la fin, quand tu arrives à la fin, c'est des 5 secondes pour choisir.
Okay.
Puis entre les boosters, tu as le droit de regarder les cartes que tu avais prises.
Ah, ça, c'est un petit
les
peu.
Les cartes, mais là, c'est ça le défi par rapport au casual. Plus, c'est que faut que tu mémorises ta curve ressemble à quoi, qu'est-ce que t'as besoin, qu'est-ce que t'as. Parce que sinon, tu peux te retrouver à la fin et t'es comme « fuck, j'ai pas pris de second drop ».
C'était-tu un nouveau challenge pour toi, ça?
J'en avais fait une coupe. Ça faisait une coupe de fois, genre dans le temps de Eldritch Moon, j'en avais fait beaucoup aussi.
OK.
Puis, c'est super le fun, par exemple. Ça, moi, j'adore ça.
On aime beaucoup les drafts ici à terrain basique aussi. C'est une manière de, je dirais, d'égaliser les chances un petit peu à tout le monde.
C'est ça.
Est-ce que tu as des decks d'adultes? Est-ce que tu t'es fait des decks d'adultes sur ton bord?
J'ai fait des decks Commander là, pour jouer avec le monde qui veut jouer ce format-là.
OK.
C'est pas vraiment le format que je préfère, mais je le vois un peu différemment. T'sais, j'ai pas l'impression que je joue à Magic quand je joue Commander. Goût à moi, tu sais.
Okay.
Parce que vu que c'est l'aspect free for all qui fait en sorte que c'est comme. Il y a moins, mais tu sais, c'est le fun pareil. Là, j'ai plus l'impression de jouer à un board game.
OK, ouais, parce que veux pas, là, si tu nous parles de Limited, c'est tout le temps du duel, c'est tout le temps un contre un.
Exact.
Et là, tu t'es fait un deck de Commander pour jouer à plusieurs. Ça t'es-tu déjà arrivé d'essayer un draft après ça, on joue free for all?
Non, j'ai jamais fait ça.
Non, ouais.
Non, j'ai jamais fait ça. Le draft, moi, ce qui m'a attiré le plus là-dedans, c'est que le draft, c'est considéré comme le format qui est le plus skill-based.
Ouais,
c'est format de toutes les formes de Magic qui valorise le plus le fait que tu aies du skills dans le format.
Ça me va totalement comme approche. T'as-tu un set préféré dans les derniers qui vient de sortir?
J'ai vraiment beaucoup aimé War of the Spark.
Ça revient beaucoup, ça. Ouais.
War of the Spark, c'était vraiment un bon set. Ils ont vraiment...
Giz, il appelait ça les Planeswalker Bic. Comme les stylos, là, quand il est vide, tu le jettes.
Ouais, c'est ça. Ah non, mais autant que Wizard, ils se sont trompés sur des Planeswalkers qu'ils ont fait dans ce format-là, là, parce qu'ils sont en train de tout briser de plein de formats.
Il y a Tamiyo, il y a...
Le Bendar 7, puis Teferi. Les Planeswalkers à 3, ils n'ont pas trop fait attention.
c'est vrai que ça vient fort.
J'aime beaucoup Teferi. Teferi. C'est parce que c'est contre le contrôle.
On va décrire c'est quoi là? C'est le bleu blanc.
Ouais. C'est un bleu blanc, un colorless. Son plus 1, tu peux. Ça permet de jouer des sorceries en instant.
Jusqu'à ton prochain tour.
Jusqu'à ton prochain tour. Son moins 3, c'est. Tu retournes un permanent dans la main de son joueur, du joueur. Puis tu piges une carte.
Oh shit.
Puis.
Pourquoi pas?
That's it.
Shit, c'est fort.
Mais il y a son statique.
Il y a son effet continu aussi, là, que l'autre, il peut pas jouer en instant.
Ouais, fait que.
C'est pas mal.
Fuck tes counter spells.
Ouais. C'est vraiment fort.
Je dois être allergique à Teferi, je viens de. Colin, puis je veux dire, là, t'as parlé de Eldritch Moon, puis c'est ça.
Ouais, dans ce temps-là, c'était des bons formats. Là. Depuis une couple d'années, là, Wizard, ils ont vraiment bien scoré là, sur leur équipe de développement de set. Là. Il y a eu pendant une couple de temps, c'était assez médiocre, là, mais là ils sont
médiocre,
bien
c'est
pris.
Terros, tu veux dire?
Ouais, mais c'est ça le pire. Moi, j'ai un billet pour Terros, vu que c'est comme mon premier set.
Ouais.
J'avais fait Return to Ravnica, mais Terros, c'est le premier set que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup drafté. Fait que dans ma tête, ce set-là, il est insane. Mais, quand j'y rejoue, j'ai comme, aïe, la nostalgie est forte.
C'est un set qui est fort, qui est le fun à jouer. Avec juste ce set-là, mais dans l'environnement Magic au complet, ça le fait pas.
Ça a pas percé les années. T'as-tu des cartes préférées de ce set-là, si tu dis que...
Dans ce temps-là, tous les trucs héroïques, là, puis tous les trucs héroïques, c'est tellement le fun, le Pegasus, là, le 2-2 qui donne un counter quand il est... la trouble à deux flingues.
Les dévotions aussi.
Ah ouais, les dévotions, le Grim Merchant à ce modèle, c'était vraiment le fun, ouais. Ça aussi. Là.
Gary.
Gary, ouais, le classique Gary.
On est sorti de nos decks, nous autres, on est trop tannés de le voir.
Ah ouais, mais en draft, c'est tellement le fun. Puis dans mes souvenirs, ça.
Ben oui. C'est encore une très bonne carte.
Puis en plus, Born of the Gods, c'est le deuxième set qui est suivi Terros. Là. C'est le premier tournoi, c'est un peu release que j'ai gagné.
Oh yeah!
Ouais, fait que c'est pour en rajouter en nostalgie, tu sais.
Il y a des beaux souvenirs. Aussi, voyons, c'est ma question. Il est de se sauver. Toi, pose-en une.
Ah, ben là.
T'as-tu un chien?
Ouais.
Il s'appelle combien?
On a un chien ensemble, puis Gabi, qui s'appelle Harley.
Harley?
Ouais, un berger blanc de 6 ans.
Cool.
Ouais, une très énervée. Mais.
J'en ai une question.
Hey, je parlais de chien.
Ah, mais là.
Ok, vas-y.
On a fait le tour. Non, mais tu pensais-tu aller dans des tournois prochainement? C'est quoi qui s'en vient pour toi?
Mais là, c'est parce que ça a toujours été ça le problème, c'est que j'ai toujours été in and out parce qu'avec l'école puis le travail, genre, je me suis jamais assez investi pour me dire je vais aller le faire. Puis présentement, c'est pour ça que je me suis mis sur Magic Arena. Je peux le faire à temps perdu. Ouais. Je me rends mythique à temps perdu. Puis après ça, je peux faire les tournois. Tu sais, ce qui est le fun, c'est quand le tournoi pour te qualifier, ils ont super bien fait ça. C'est genre, il y a une journée, tu logs ton deck. Puis après ça, t'as des rounds à faire. Fait que c'est même pas, il y a même pas de chrono, rien. C'est pareil comme si tu faisais genre une draft normale sur Magic Arena. C'est le tournoi pour te qualifier, tu sais, au Mythic Championship.
C'est quand même cool. Ça.
Fait que tu te pointes le matin, puis tu fais une game, tu fais d'autres choses, tu reviens, tu fais une autre game. Fait que là, ça me va. Là. Ils ont vraiment bien implémenté ça.
Faut que tu te déplaces pour les faire, les.
Ouais, pour le Championship, ouais, là. Ça faudrait se déplacer.
Le prochain Mythic, c'est où et quand?
Je sais pas, j'ai pas cette information-là.
Ah. À date. Sinon, là, on a parlé beaucoup du contenu des cartes, mais est-ce que le cosmétique, c'est quelque chose qui t'intéresse aussi?
Ouais, absolument. Là, j'ai vraiment aimé ce qu'ils ont fait avec les cartes aventure là, de Eldraine.
Il y en a des full art.
Les alternate arts sont vraiment hot. Le côté comme conte de fées qui ont sorti, là, je trouve qu'ils l'ont vraiment bien réussi.
Ça me ramène un peu dans les débuts de Magic.
J'ai pensé la même chose aussi. Ouais. Là. Je m'ennuie du vieux art de Magic. Ouais.
C'est un commentaire qui revient souvent.
Mais tu sais, dans le temps que c'était fait à main, là, c'est ça que j'ai compris qu'il y avait de la transition. Là, quand c'était arrivé au son numérique, c'est là qu'on a perdu un peu peut-être l'essence. C'est devenu un peu plus cartoony là, à mon goût. Là.
Puis est-ce que tu t'intéresses à l'histoire, au lore de Magic ou t'es plus.
Je m'intéresse aussi. Des fois, j'aime bien, sans lire, là, mais genre, je regarde des reviews sur YouTube de gens de monde qui font le tour du lore. Là.
Ok.
Je trouve ça quand même intéressant.
On a notre Jason qui s'occupe de ça.
Ouais.
Ça.
Oui, on se garde au courant, c'est sûr. Et sinon, mettons, là, tu dis que c'est comme ton beau-père qui est rendu ton ami qui t'a ramené dans Magic via le draft.
Ouais.
T'as-tu déjà montré à du monde à jouer à Magic?
Ah ben ouais, c'est ça. C'est moi qui avais rentré mon frère. Ça, j'ai rentré mon cousin. Rentré pas mal de monde.
La famille, c'est
vrai. Ouais. Ouais, puis c'est ça. Puis après ça, les autres sont devenus aussi accros. Là, fait que...
Ça va vite.
Ça, c'est cool, en Christ. Ouais. Moi, j'ai pas ça dans ma famille.
Ben, t'as deux fils.
Je suis déprimé, Tommy.
Ben oui, ça paraît.
Ah ouais, pendant un bout de l'esprit de famille, là, l'époque, on s'était acheté plein de... On avait monté comme 5-6 decks de moderne. Là, dans l'esprit de famille, on allait juste comme grinder puis pratiquer pour le prochain tournoi.
Oh yeah, des decks de moderne.
Je suis jaloux, là. Je suis jaloux en hostie.
Puis, qu'est-ce que tu penses du nouveau format Pioneer?
Ah, je suis pas encore rentré dedans pour jouer parce que je honte pas à cette carte présentement. Mais le format, j'aime beaucoup le regarder. Il est vraiment excitant, là. Surtout que moi, en plus, comme je disais, j'ai commencé à Return to Ravnica. J'ai recommencé. Puis Pioneer, c'est Return to Ravnica à aujourd'hui.
Ouais.
Fait que c'est 100% des formats standards que j'ai connus.
Effectivement.
Fait que là, je revois, tu sais, moi, à l'époque, là, je voyais du monde qui rejouait le Blue White Flash là, dans l'époque de plus avec Eldritch Moon, là, avec les Selfless Spirit, puis tout ça. Là, je revoyais du monde jouer ça, je revoyais du monde jouer Dévotion. Moi, je jouais Mono Black Devotion en standard dans le temps.
Dévotion, c'est quoi? C'est un type de deck ou c'est...
Mécanique.
C'est la mécanique de Terros qui fait des payoffs pour le nombre de symboles de la couleur que t'as dans les permanents.
Ouais, comme Gary.
C'est ça.
Ouais. Gary, deux noirs, trois colorless. Quand tu mets Gary en jeu, il draine autant d'énergie à tout les adversaires que le nombre que ta dévotion, puis vu qu'il est deux noirs, ben lui il fournit minimum deux noirs. Fait que ça aurait été fort, puis là après ça tu peux rajouter tes monstres qui coûtaient trois noirs.
La grosse carte qui fait que genre c'est joué en Pioneer, cette affaire-là, c'est Nyctos. la laine qui fait une laine legendary qui donne un colorless, ou tu peux taper deux et la taper elle, puis tu donnes un mana de la couleur égale à la dévotion que t'as.
Oh yeah.
Fait qu'imagine ça dans un shell avec genre du vert, genre tour 1 ton elfe, tour 2 t'as deux verts, tour... après ça tu tapes ça, là t'es une tour 3 avec 3 verts, tu retapes ça pour 3 laines, ça te donne comme 6.
Ça va vite.
Pas, ouais.
Ouais, ouais, ça va vite, mais ici on a mieux pas trop parler des elfes. T'as-tu une race préférée, une couleur préférée? On a parlé de contrôle tantôt, ouais. Je pense, ouais ouais, désolé. Ben je pense que moi j'arrive au bout.
Ben ouais.
Je pense que ça va être ça pour cette semaine. C'est Marc-Antoine, bon. J'espère que tu vas revenir nous parler de tes dernières performances. Ouais. Reste, d'habitude, on est plus de monde autour de la table. Ça brasse un peu plus. On est en fin d'année à Terrain Basique. Merci beaucoup à toi de t'être déplacé. Puis encore le mieux possible à toi et à ta famille.
Merci.
Salut Gabriel. J'espère que c'était pas si pire pour toi. Elle fait des sourires, elle dit qu'elle est contente. Merci François Lombré.
Au plaisir.
J'ai hâte de lire tes nouveaux mimes sur notre page Facebook. Suivez-nous sur Terrain Basique.
Je suis fan de tes mimes.
Ah ben, je suis pas tout seul, hein, y en a d'autres.
Non, on est une équipe.
Non, mais c'est bon. Si tu veux embarquer, je suis fan, je suis ça.
Si tu veux embarquer, t'es le bienvenu. On est en phase de recrutement. D'ailleurs, excellent. Si vous nous entendez et vous voulez embarquer, écrivez-nous sur Facebook. Sinon, ben, on joue pas mal à chaque vendredi Legacy Casual ici au Musée de l'Absurde. Gênez-vous pas, venez faire un tour. Tenez-nous au courant de comment qu'on peut améliorer le produit qu'on vous offre et qu'on est très content de faire ensemble entre amis. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Merci à l'Abyss, merci beaucoup à podcast.com. Je pense qu'on est disponible sur Spotify. Il y a de la merch aussi en ligne. Là-dessus, mon nom est Tommy Godette et je vous souhaite à tous d'être le moins manascrou possible.
Membre de la famille H2O Web Media.